L'Institut des arts et métiers de la Louvière accueillait le mardi 17 novembre Matteo Alalouf pour la conférence intitulée « Contre la pensée molle, dictionnaire du prêt-à-penser ». Le docteur en sciences sociales spécialisé dans les thématiques de sociologie du travail et de méthodes de recherche en sciences humaines a ainsi présenté la dernière édition de son dictionnaire du prêt-à-penser. Le public présent a donc pu apprendre et échanger sur la façon dont le pouvoir change le sens des mots. La conférence était organisée par l'antenne de la Louvière de Hainaut Senior. Ce service public a pour mission de veiller à l'épanouissement des aînés de notre société, notamment via des conférences, organisées dans ce cas-ci en collaboration avec l'extension de l'ULB à la Louvière et la bibliothèque centrale de la province du Hainaut.
C'est aussi gentil d'être venu avec un titre finalement un peu rébarbatif. La pensée molle, dictionnaire du prêt-à-penser. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essayerai de vous raconter la petite histoire du dictionnaire du prêt-à-penser. Donc, cette idée du dictionnaire du prêt-à-penser, c'est une vieille histoire qui remonte en fait à une vingtaine d'années. C'était en 1995, à Paris. 60 familles sans domicile fixe avaient occupé un immeuble rue du Dragon. Cette occupation avait fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés autour de cela en solidarité et tout ça. Ça a même été un moment important, c'est de cette occupation que s'en est toute une série de mouvements en France, qui aujourd'hui sont des mouvements qui existent, qui jouent un rôle important, comme le mouvement DAL, droit au logement, droit devant, assez contre le chômage, donc toute une série de mouvements qui sont nés de cette occupation, autour de laquelle se sont regroupés toutes sortes de personnages importants en France, notamment Monseigneur Jacques Caillou, Albert Jacquard, le biologiste, des chanteurs comme Jacques Higelin, donc des artistes, toutes sortes de gens s'étaient accompagnés, ça avait été un mouvement important. Et c'est ces occupants, ces squatters, qui ont eu l'idée d'un dictionnaire du prêt-à-penser, donc avec ces gens qui étaient là, puis ils en ont contacté quelques autres un peu moins connus, comme moi, pour contribuer, pour faire un dictionnaire du prêt-à-penser qui devait expliquer ce que sont les mots de pouvoir et ce que le pouvoir fait aux mots, en quelque sorte. Et donc j'avais participé à ça, et c'était une entreprise qui m'avait fort stimulé, je trouvais ça particulièrement intéressant comme démarche. Quand une année plus tard, et on vous en a parlé tout à l'heure avec des amis, nous avons créé une revue qui s'appelle Politique, revue de débat. Quand on a créé cette revue, c'était en 96, donc il y a toujours près de 20 ans, moi j'ai dit, je vais tenir une rubrique qui s'appelle le dictionnaire du prêt-à-penser. Chaque fois, je vais traiter d'un mot. Et depuis lors, je fais ça, tous les numéros, cette revue continue à apparaître, et depuis le premier numéro jusqu'au dernier, à chaque numéro, il y a une rubrique du prêt-à-penser, où chaque fois, je traite d'un mot. Ainsi, au bout de quelques années, c'était en 2000, les éditions qui étaient les éditions Vie ouvrière, qui sont devenues les éditions Couleur Livre, m'ont dit, est-ce qu'on ne publierait pas cette rubrique, c'est prêt-à-penser? Et on a fait comme ça un premier dictionnaire du prêt-à-penser qui s'appelle « Les mots du pouvoir » et qui reprenait au fond les mots qui étaient traités dans la revue politique et qui était précédé d'une introduction qui expliquait un peu des choses que je vais essayer de vous expliquer maintenant et puis une conclusion qui expliquait d'autres choses, donc qui était entourée d'une présentation et d'une conclusion. Et entre-temps, j'ai continué à faire donc à traiter ces mots dans la revue politique. Et toujours maintenant, toujours les éditions Couleur Livre ont dit si on republiait une édition du dictionnaire du prêt-à-penser, c'est la dernière qui vient de paraître juste maintenant et qui s'appelle « La pensée molle, dictionnaire du prêt-à-penser ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée, en gros, que le pouvoir, c'est ça les mots du pouvoir, que le pouvoir englue en quelque sorte les mots, leur donne une signification, leur donne une connotation, leur donne un sous-entendu, que le pouvoir change au fond le sens des mots. Les sens des mots prennent deviennent ce qu'ils sont en fonction de ce que le pouvoir en fait. Et puis, en même temps, les mouvements qui se créent en résistance, qui se créent en opposition, à la fois tentent à démystifier ces mots, à déconstruire ces mots, à voir ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'avaient voulu faire les occupants de la rue des Dragons tout au début, il y a 20 ans. Et en même temps, à leur donner également un autre sens. Ça veut dire que les mots sont des enjeux de pouvoir, aussi bien des détenteurs du pouvoir que de ceux qui s'opposent à ce pouvoir. Ainsi, si l'on pense à ce tout premier, le dictionnaire zéro, je dirais, celui qui s'est fait à Paris, à l'occasion de cette occupation, c'était en gros les mouvements contre la précarité, contre la pauvreté, qui s'étaient mobilisés pour essayer de comprendre quel était le sens des mesures auxquelles ils étaient soumis, donc les mots du pouvoir, et essayer en même temps de les déconstruire et d'essayer de résister et d'utiliser ces mots pour autre chose. Le dictionnaire, hein, celui qui est paru en 2000 à partir des mots que j'avais traités dans Politique pendant un certain nombre d'années, mais au fond, compte tenu de la période dans laquelle cela se situait, c'était après la conférence de l'OMC, de l'éclosion des mouvements altermondialistes, l'idée que notre monde est possible, qu'une autre société est possible. Donc c'était dans cette suite-là que se situait ce dictionnaire du prêt-à-penser et que les mots étaient analysés de cette manière-là. Alors que celui de maintenant, celui contre la pensée molle, c'est l'idée que les mots se sont de plus en plus englués dans le pouvoir sur, au fond, près de 40 ans de néolibéralisme. C'est depuis 80, en 1980, c'est les élections de Ronald Reagan aux États-Unis, de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. En Belgique, nous avions le gouvernement Martens Gold qui faisait une inflexion néolibérale aux politiques qui était choisie. Donc après 35 ans de néolibéralisme, 45 ans même, non 35 ans, de 80 maintenant, 35 ans de néolibéralisme, l'idée que les mots sont glus dans le pouvoir, c'est pour ça que ce dont j'ai traité ici, c'est un autre titre au fond qu'aurait pu avoir ce dernier dictionnaire, c'est celui des mots du présent. Ce que le présent, ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'actualité fait aux mots. Et c'est important de voir ce que deviennent les mots, parce que les mots véhiculent un raisonnement. Quand j'utilise un mot, il y a immédiatement un raisonnement qui en découle. Réfléchissez juste maintenant, et d'ailleurs on en parle, quand des gens à la radio, à la télévision, dans la presse parlent des migrants, ils envisagent la crise que nous connaissons maintenant à propos des réfugiés. Il les place dans une certaine perspective. D'autres parleront de réfugiés. Suivant le fait que j'utilise le mot migrant ou le mot réfugié, je pense à des choses différentes et cela engendre des raisonnements qui sont différents. Je viendrai plus tard, je détaillerai davantage les mots. L'idée que le pouvoir, au fond, assoit son emprise sur la société à travers des mots, alors que d'autres essayent de les déconstruire et de voir ce qu'ils sont. Un des mots très très importants qui joue un rôle dans les politiques sociales, qui joue un rôle majeur, qui a pris une importance très grande, sont les mots d'actif et d'activité. Actif, c'est bien. Activité, c'est bien. Il faut développer les activités. Les politiques de l'emploi sont devenues des politiques actives de l'emploi. Les mesures concernant l'emploi sont des mesures d'activation. Il vaut mieux utiliser les sommes pour activer les chômeurs plutôt qu'à les indemniser. Donc, le mot actif, activité, est un mot à connotation positive, c'est-à-dire qu'il réveille dans nos oreilles des sentiments positifs. C'est bien d'être actif. Donc, l'activité, l'actif, c'est bien. C'est qu'il y a des connotations positives. Mais un des effets des mots, c'est aussi leur contraire. Utilisant un langage un peu plus savant, leur antonyme, c'est-à-dire le contraire. Dès lors que j'ai utilisé le mot actif, Ça veut dire que je veux promouvoir un certain nombre de choses auxquelles j'applique le qualificatif d'actif, politique active, ça c'est une bonne politique, mais son contraire, c'est passif. Et passif, ça c'est une connotation négative. Passif, c'est pas bien. Et donc, lorsque j'utilise un mot, c'est pas seulement le sens du mot et sa connotation, c'est aussi son contraire et la connotation de son contraire. Les politiques actives en matière de chômage, c'est quoi ? C'est la recherche active d'emploi. On dira d'abord, les chômeurs doivent chercher activement du travail. On mettra sur pied toute une série de dispositifs de contractualisation et d'autres. Ce qui est important pour les chômeurs, c'est à chercher du travail. Ils doivent s'engager, y compris contractuellement, etc. On peut créer des formations pour qu'ils trouvent du travail, etc. Tout ça, ce sont des politiques actives qui sont favorisées. Et les politiques passives, alors qu'ils sont, elles, défavorisées, qu'il s'agit de réduire, de diminuer, c'est quoi ? C'est l'indemnisation du chômage. L'indemnisation, c'est passif. Dès lors que j'ai utilisé ces termes, ça veut dire que j'ai dans mon collimateur l'indemnisation du chômage, alors que ce que je privilégie, c'est toute une série de remèdes qui sont beaucoup plus discutables. C'est pas certain que si je suis une formation, je trouverai un emploi. Beaucoup de formations sont redondantes d'ailleurs, et c'est pas certain d'ailleurs dans le marché de l'emploi où on se trouve qu'en cherchant de l'emploi, je veux le trouver loin de là. Mais l'essentiel, c'est de chercher de l'emploi. Par contre, l'indemnisation du chômage, c'est important. C'est particulièrement important pour les chômeurs parce que c'est leur moyen de subsistance, je dirais. C'est un revenu de remplacement qui est tout à fait fondamental pour ceux qui n'ont pas de revenus de travail directement, donc c'est un revenu important. Mais ce n'est pas que ça. La raison pour laquelle, dans toute l'histoire de la sécurité sociale, il y a eu une telle opposition, de tous les régimes de sécurité sociale, c'est celui qui a été le plus conflictuel, c'est celui du chômage. Celui qui a été le moins conflictuel, c'est les allocations familiales. Tout le monde trouvait bien que lorsqu'on avait une famille nombreuse, il y a une allocation familiale, ça c'était bien. Il y avait des problèmes, mais enfin, on aimait bien quand même l'assurance maladie. La pension aussi, on pouvait en discuter. Enfin. Par contre, le chômage, ça, c'est insupportable. C'est le dernier régime qui a été rendu obligatoire. C'est insupportable parce que c'est d'abord l'idée, payer les gens à ne rien faire, ça c'est pas bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, et c'était dit toujours ouvertement, si les gens reçoivent une indemnité de chômage, ils n'accepteront plus n'importe quel emploi. On ne pourra plus sous-payer les gens comme on le fait maintenant. Où les gens travaillaient pour rien du tout. La pauvreté, c'était la pauvreté massive créée par l'emploi. Ceux qui étaient pauvres, c'est ceux qui travaillaient. Ceux qui ne travaillaient pas étaient riches. On devait travailler dans n'importe quelle condition, effectivement. Et si les gens ont une indemnité de chômage, ben, ils n'accepteront plus cela. Or, c'est ça l'idée. Toujours maintenant, l'idée, le niveau de l'indemnité de chômage fait que les salaires ne peuvent pas diminuer en dessous d'un certain seuil parce que les gens préféreraient être au chômage plutôt que de toucher un salaire. Ce choix qui est laissé, si les conditions de travail ne sont pas suffisantes, si le salaire n'est pas suffisant, or on voit bien aujourd'hui l'augmentation déjà de la pauvreté dans le travail, à savoir des gens qui travaillent et qui n'échappent pas pour autant à la pauvreté parce que les salaires sont insuffisants. On voit le rôle que joue l'indemnité de chômage contre la diminution des salaires de ceux qui travaillent. On voit bien le sens que prennent les mots. Comment, à partir de choses apparemment positives, on va faire des choses actives, on va activer les chômeurs, on va faire en sorte qu'ils aient des attitudes actives par rapport à l'emploi, etc. Comment on en arrive, en fait, à faire en sorte que ce qui est mis en cause, c'est l'indemnisation du chômage et que les mesures que l'on prend en réalité, et on voit bien maintenant à travers les dernières mesures d'exclusion qui ont été prises, comment, en fait, c'est l'indemnisation du chômage qui se trouve visée. Et donc, que l'enjeu n'est pas seulement la politique active, mais c'est aussi ce que l'activité permet de désigner comme passif. Et en général, ce qui est plus important, c'est ce qui est passif que ce qui est actif. Je vous ai dit, la pensée molle, le dernier dictionnaire du prêt-à-penser, donc la pensée molle, le titre de la conférence, c'est la manière dont le pouvoir englue les mots dans le présent. Je vais essayer de vous l'expliquer, ce que des philosophes et des historiens d'ailleurs appellent par un terme qui s'appelle le présentisme. Pas présentéisme, ça c'est encore autre chose. Présentisme. Le présentisme, ça veut dire réduire les événements au seul présent. Il n'y a que le présent qui caractérise, qui définit les événements qui se passent, c'est-à-dire sans histoire et sans autre avenir que l'accomplissement du présent. C'est comme ça que l'on raisonne tout le temps. Nous en discutions tout à l'heure, on me disait, il y a eu une conférence il y a peu sur l'ubérisation de la société. Et donc l'idée, ouais, il y a les taxis, et puis il y a Uber, avec l'application. L'idée d'Uber, c'est effectivement une dérégulation complète du marché du travail. C'est une dérégulation complète qui fait que tout le monde se trouve dans de la précarité. Donc chacun entre dans un système de précarité comme ça, et puis il y a les gens qui appellent, c'est une précarisation générale d'un marché du travail dérégulé. C'est la dérégulation complète. Dans la mesure où vous avez Uber en ce qui concerne le taxi, le même type de choses sur le plan des chambres, de l'hôtel, l'hôtellerie qui est mise en cause, donc toute une série d'aspects de la société. L'idée, l'avenir, c'est l'ubérisation de la société. Toute la société va fonctionner suivant ce principe-là. Donc, je vois quelque chose de réel qui se passe maintenant et je conclus immédiatement que celle-ci préfigure l'avenir et que celle-ci, que je ne peux d'ailleurs concevoir d'autre avenir que celui-là. C'est un fait qui n'a plus d'histoire, qui n'a plus de relief, qui n'est plus que l'accomplissement de l'éternel présent, d'une certaine manière. Le passé est soit relégué aux oubliettes, soit on oublie, soit mythifié, le passé c'était très bien, ce qui se passe maintenant c'est pas bien, ou bien diabolisé, le passé c'était affreux, tandis que ce qui se passe maintenant c'est bien. Mais jamais une analyse et une critique du passé. Le passé c'est soit rien du tout oublié, soit c'est diabolisé, c'est insupportable, je sais pas moi, dans le pays de l'Est, le communisme c'est terrible, on réfléchit plus sur ce que c'était, mais de toute manière c'était le diable, tandis que maintenant on est dans le marché, tout s'accomplit tout seul. Donc c'est soit diabolisation, soit une mythification, c'était la société parfaite, l'égalité, tout le monde était heureux, alors que maintenant, regardez, la pauvreté est arrivée. Sans une réelle analyse, sans une réelle compréhension de ce qui s'est passé. Et donc, c'est ça le présentisme. C'est aussi la manière dont les choses nous sont présentées constamment par la télévision, par les actualités, par exemple. Les images, c'est vrai. On voit ce qui se passe, c'est vrai. Et puis, ces images disparaissent, il y a d'autres qui les remplacent, ça devient de nouveau vrai. Donc il y a des images qui chassent d'autres, des sujets qui chassent d'autres. Ce qui était vrai hier, aujourd'hui, est insignifiant, tandis que d'autres choses s'imposent comme vraies, et ainsi de suite. C'est ça donc ce que l'on a appelé le présentisme. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour essayer de comprendre ce qui se passe. Également, ce qu'il y a derrière cela, cela se traduit dans l'interprétation que l'on fait des statistiques. C'est-à-dire que, par rapport à cette vision que l'on a de l'avenir, ce que je vois aujourd'hui, je vais vous donner deux exemples, ce que je vois aujourd'hui, je le mets en rapport avec quelque chose d'autre, et j'en déduis des choses pour l'avenir. Je vais vous donner deux exemples, très vite. On a dit que j'avais fait une conférence à Charleroi, donc je prends un exemple de là-bas, c'était sur les retraites, sur les pensions. On veut augmenter l'âge de la retraite. D'autres disent, c'est pas bien, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de jeunes chômeurs. Si vous gardez des gens à l'emploi plus longtemps, Ça va créer du tort pour les jeunes qui veulent accéder à l'emploi. D'ailleurs, lorsqu'on a recouru aux prépensions et tout ça, c'était précisément parce que le chômage augmentait et pour permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi. Donc, ça ne va pas. On dit « Ah mais non, ce n'est pas comme ça. Regardez les statistiques. La vérité est contraire à celle-là. Vous prenez des pays où le taux d'emploi des jeunes est élevé. Vous verrez précisément que c'est les pays où les taux d'emploi des vieux est élevé. Donc un taux d'emploi élevé des jeunes entraîne un taux d'emploi élevé des vieux, et inversement, un taux d'emploi élevé des vieux entraîne un taux d'emploi élevé des jeunes. Donc si on fait travailler les vieux plus longtemps, ben les jeunes travailleront aussi plus longtemps et plus de jeunes travailleront. Bien sûr, c'est faux. Et c'est ce qu'on dit tout le temps. Hein. Le ministre l'a dit récemment en parlant de la région de Mons, justement, c'est pas loin d'ici. De regarder à Mons, il y a des taux d'emploi de jeunes qui sont bas, des taux d'emploi des vieux qui sont bas. Alors il faudrait faire travailler les vieux plus longtemps et les jeunes vont aussi travailler plus longtemps. C'est le ministre des Pensions qui a dit ça, M. Baclay. C'est bien sûr faux, c'est l'erreur statistique majeure. Ce que disent cette corrélation statistique, c'est que quand les taux d'emploi sont élevés, ils sont élevés pour les vieux comme pour les jeunes. Et quand les taux d'emploi sont bas, ben ils sont bas pour les jeunes comme pour les vieux. Et donc, ce n'est pas du tout comme ça que ça se présente. Donc, cette manière de voir toute corrélation statistique comme une causalité. Il n'y a pas de cause à effet entre les deux, il n'y a aucune causalité, sinon que les choses se présentent de la même manière. De même, en termes de causalité, cette fois je prends un autre exemple qui était ce matin, je le disais tout à l'heure aussi, donc je suis venu d'Ardar, j'étais à une présentation au ministère de l'Emploi et du Travail, avec le ministre de l'Emploi d'ailleurs, ce matin, je le contredisais plutôt, hein, donc, où on présentait des résultats d'un monitoring du marché du travail. Il y a une page dans le soir d'aujourd'hui, il y a une page d'un monitoring du marché de l'emploi. Et d'ailleurs, je ferai référence au journal Le Soir d'aujourd'hui, voilà, où on voit par exemple des taux de chômage très élevés. Ce monitoring, c'est par origine. Il y a origine belge. Origine belge, c'est des Belges qui le sont depuis 3 générations sans avoir un seul nom belge dans leur ascendant. Donc, si au niveau de mes grands-parents, j'ai un grand-parent qui n'est pas belge, je ne suis pas d'origine belge dans la statistique. Pour reprendre cette statistique, si je prends Bruxelles, origine belge, c'est 25% de la population. Donc c'est 2 générations. Je veux dire que non seulement moi je ne le suis pas, mais mes enfants non plus. Mes petits-enfants non plus. Mes petits-enfants non plus. Donc, ça c'est origine belge. Donc on voit, origine belge, les taux de chômage sont beaucoup plus bas que quand j'ai une origine, par exemple maghrébine, pour reprendre. Là, les taux de chômage sont très très élevés. Et c'est ce qui se trouve dans Le Soir. C'est le graphique qu'ils ont retenu d'ailleurs d'une étude qui fait plus de 300 pages, qui est très fouillée, hein. Il y a beaucoup de choses, qui fait plus de 300 pages. Donc ils ont retenu par exemple ce graphique. Il y a un autre graphique que personne n'a retenu, qui pourtant est là-dedans, et d'autres données. Dans la présentation, ils ne l'ont pas fait. C'est moi qui l'ai présenté, parce que j'ai dit, voilà ce que vous ne faites pas. Qui présente les taux de chômage, mais suivant le niveau d'instruction des chômeurs. Quand vous prenez, et ils tiennent compte de 3 niveaux dans leur rapport, mais ils n'en font nulle part allusion, hein, ça n'est nulle part, ni dans les conclusions, c'est juste un graphique comme ça. Si vous donc ils tiennent compte de trois niveaux d'instruction, basse, moyenne et élevée. Si je prends cela, ben les choses s'uniformisent. On n'a plus cet écart suivant l'origine, entre guillemets, nationale. Parce qu'en fait, ce qui explique, c'est le niveau de formation, c'est-à-dire les personnes qui ont été peu scolarisées se retrouvent beaucoup au chômage, quelle que soit leur nationalité, et les personnes qui ont été très scolarisées se retrouvent beaucoup moins au chômage, quelle que soit leur nationalité. Et donc, le facteur explicatif n'était pas la nationalité, mais c'était le niveau d'instruction déjà. Et si je prenais l'origine sociale, ça le serait encore plus fort. Quand on parle dans ce même rapport, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, de la troisième génération d'immigrés, est-ce que c'est une troisième génération d'immigrés ou est-ce que c'est une origine sociale populaire? Quand je vous dis à Bruxelles, il n'y a que 25% d'origine belge définie comme ça, ça veut dire que c'est les gens qui habitent Uccle, Woluwe, enfin quelques communes, et que tous les autres sont d'origine populaire, et que le contraste n'est pas seulement le fait d'avoir une origine nationale, mais c'est de savoir à quelle catégorie socio-économique j'appartiens, quel est mon niveau d'instruction, et d'autres facteurs qui conditionnent cela plutôt que l'origine nationale. Et quand on dit que cette inégalité perdure sur trois générations, et c'est vrai, elle diminue, hein, elle diminue un tout petit peu à la deuxième et un tout petit peu à la troisième, mais ça ne diminue pas tellement, ça perdure. Parce qu'effectivement, l'infériorisation sociale perdure. Et c'est pas parce que. Et nous, je dois dire, à l'université, nous savons ça très très bien. Hein. Moi, je l'ai vu dès que j'étais très jeune enseignant. Et ensuite, je l'ai vu parce que je l'ai regardé dans les statistiques d'étudiants de notre université. Je voyais bien que les étudiants d'origine marocaine, qui étaient bruxellois, ben, leur taux d'échec était très élevé. Et les étudiants marocains qui venaient du Maroc réussissaient mieux que les étudiants belges. Ça veut dire qu'ils ne provenaient pas de milieux sociaux qui étaient le même. Les étudiants qui venaient du Maroc, même s'ils n'avaient pas une scolarité en Belgique, je veux dire un système scolaire qui était moins bien adapté au système universitaire que ne l'est le système belge, réussissaient mieux en raison de leur origine sociale que ceux d'ici qui étaient d'origine sociale populaire. Et ce qui était en jeu, ce n'est pas le fait d'être marocain ou de ne pas être marocain, c'est de savoir de quel milieu on provenait et à quelle appartenance socio-économique on avait affaire. Et cela, on n'en a pas encore constaté hein, dans ce rapport dont je vous parle, qui est par ailleurs très très intéressant et très riche. C'est uniquement de cette manière que c'est vu. C'est toujours des origines nationales qui d'ailleurs sont pour le moins discutables. De même, je vais continuer là-dessus, un mot que j'ai très très souvent traité de différentes manières, il y en a quelques-uns que je traite plusieurs fois, tellement ils sont riches et tellement ils sont importants. Celui-là, je l'ai combattu, vraiment, je l'ai combattu, et je pense même que j'ai gagné. C'est le mot « allochtone ». Ce mot a été utilisé pour la première fois dans les années 70 aux Pays-Bas. Il vient des Pays-Bas. Il a été immédiatement, parce qu'en raison de la langue, bien sûr, importé en Flandre. Donc tous les Flamands l'utilisent toujours. Ce matin, le ministre Peters, puisqu'il s'agissait de ça, ne parlait que d'allochtone. Hein, donc il parlait d'allochtone. Donc ce mot est entré dans le vocabulaire flamand, comme fait partie intégrante. Il y a même des décrets qui utilisent ce mot, donc des décrets du gouvernement flamand, qui utilisent le mot allochtone, des mesures prévues pour les allochtones, donc le mot allochtone. En ce qui me concerne, j'ai essayé, chaque fois qu'on l'utilisait en français, de le combattre. Quand je l'entendais à la radio ou à la télé ou que je lisais un article, j'écrivais un mail, un mot pour dire « voilà ce que vous utilisez et voilà ce que ça signifie ». Qu'est-ce que ça signifie ce mot, l'utilisation de ce mot allochtone? Ça signifie déjà une partition de la société. Il y a d'une part des autochtones, et puis des allochtones. Or, les autochtones, on sait bien, surtout en Belgique, qu'ils n'existent pas tellement. Hein, ils sont très, très divers. Il y a des diverses sortes. Il y a déjà des Flamands. et des Wallons. Les Bruxellois, c'est encore, paraît-il, autre chose. Et parmi les Flamands et les Wallons, Charleroi et Liège, je ne vous dis pas. Et ainsi de suite, je peux continuer. Donc, le centre, évidemment, qui n'est pas Mons, hein, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas... les étrangers, les Marocains, les Turcs, les Sud-Américains, enfin, que sais-je... aucun de ces ensembles, ni les autochtones, ni les allochtones, n'existe. C'est chaque fois des ensembles très, très divers. Et c'est aussi une manière d'assigner les personnes à un statut. Au fond, ce seront des personnes issues de l'immigration, même quand ils sont nés ici, et quelles que soient les générations qui suivent, ils resteront allochtones. Moi, ça m'a immédiatement frappé. Je vous ai dit, mes enfants, dans cette définition, ne sont pas d'origine belge, et mes petits-enfants non plus. Moi, je suis d'origine turque. Et en Turquie, pour désigner le mot étranger, je ne sais pas s'il y a des Turcs ici, ou qui connaissent le turc, il y a deux mots. Yabancı et ecnebi. Yabancı, ça veut dire un étranger, un touriste qui est là, un étranger comme un Américain qui visite ici. On dira, c'est un étranger, celui-là, c'est un Américain. Un touriste qui est en Turquie ou un étranger qui s'établit pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, on dira, c'est un étranger. Il y a des étrangers un peu partout. Ça, c'est un yabancı. Puis étranger, ça veut dire aussi ecnebi. Ecnebi, c'est des gens qui vivent ici depuis toujours, mais qui sont toujours étrangers. Les Arméniens, c'est des Ejnébis. Mais ils sont turcs avant les Turcs, enfin, je veux dire. En tout cas, ils étaient là bien avant. Les chrétiens qui sont là, il y a des chrétiens, des communautés de chrétiens primitifs, des premiers chrétiens qui sont là, les Araméens, qui habitent avant l'arrivée de ceux qui sont les Turcs aujourd'hui. Mais ce sont des Ejnébis. Quoi que vous soyez, les Juifs, ce sont des Ejnébis. Quoi que vous soyez, de génération en génération, vous resterez des étrangers. C'est ça que signifie cette assignation. C'est ça que désigne un mot comme allochtone par rapport aux autochtones. Parce qu'on trouve ce mot, parce qu'on dit, c'est pas juste, hein, ils deviennent belges, on ne sait plus les distinguer. Au bout de 2-3 générations, on ne sait plus les distinguer. Effectivement, c'est ça une société. C'est ça les mélanges qui se produisent dans une société. C'est à partir de là que l'on crée ces divisions sociales en posant les problèmes en ces termes-là. D'ailleurs, je vous dis, en Flandre aussi, beaucoup de gens se sont rendus compte de ça. Beaucoup de journalistes flamands, c'est les journalistes du journal Le Morgen qui en ont pris l'initiative, ont demandé à ce qu'on n'utilise plus ce mot. Dans le journal de Morgen, on n'utilise jamais le mot allochtone. Beaucoup de Flamands en ont pris conscience. Mais on l'utilisait parce que c'est facile de dire issu de l'étranger, sinon on essaye d'expliquer origine belge, origine Union européenne. C'est des mots compliqués, je veux dire, pour désigner. Et surtout si on est journaliste, qu'on parle à la radio, que sais-je, c'est beaucoup plus facile d'utiliser un mot synthétique que d'utiliser des périphrases ou des phrases pour désigner quelque chose. Donc c'est pourquoi ça marche très très bien. Mais une fois qu'on réfléchit, on se rend compte que quand j'utilise ce mot, j'induis des raisonnements et j'ai une manière de voir la société. Vous voyez ce que je vous ai dit tout au début ? Les mots induisent une vision de la société. Si j'utilise tel mot et pas tel autre, c'est que je développe, j'ai des visions de société qui sont différentes. Et quand j'introduis des mots, notamment quand j'exerce des responsabilités que je suis au pouvoir, c'est pour favoriser certaines politiques et pas d'autres. Je dis flexibilité, ça c'est positif. Comme je vous l'ai dit pour actif. Flexibilité, ça c'est bien. Le contraire, c'est rigidité. Or, flexible, c'est bien. Or, quand on est flexible, en général, on a des conditions de travail qui se détériorent, des salaires qui se détériorent, on perd son emploi, enfin tout ça. On est flexible, ça c'est bien. Le contraire, vous ne voulez pas être rigide quand même. Vous voyez, l'utilisation d'un mot, dès que j'utilise un mot, le mot induit l'idée que je veux avancer et la politique que je veux imposer sans que l'on s'en rende compte. C'est pourquoi il faut beaucoup se méfier des mots à connotation positive. Voilà donc ce que le pouvoir fait aux mots. Le pouvoir donne une signification, flexibilité, activation, activité, migrants ou réfugiés, allochtones, tout ça c'est des mots qui entraînent une signification. Voilà. En conclusion, parce que je peux parler longtemps, hein, je peux comme ça, les mots sont très très nombreux, il y en a beaucoup que j'aime, que je développe, un mot que j'aime beaucoup c'est tabou, enfin il y a toutes sortes comme ça. On peut en parler évidemment longtemps, mais ce que je dirais c'est que ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, et ce que servent les mots, notamment le mot réforme, on ne réforme pas assez, il faut réformer plus, le mot réforme qui a changé de sens aussi. Dans le temps, réforme, réformiste, ça voulait dire qu'on voulait réformer la société dans un sens de protéger les plus faibles, de créer des régimes de sécurité sociale, de créer un minimum salarial, en fait, de faire toute une série de... Maintenant, faire des réformes, c'est exactement le contraire. C'est essayer de diminuer les protections sociales, de créer plus de mobilité, dira-t-on, de déréguler, comme on a parlé pour Uber, de déréguler, donc d'aller dans un sens différent. En fait, un auteur important, qui est mort il y a peu d'années, très âgé d'ailleurs, il était presque centenaire, Albert Hirschman, a écrit qu'il y a eu dans l'histoire trois grands mouvements contre-révolutionnaires. Le premier grand mouvement contre-révolutionnaire, c'est celui contre les droits civils. C'est la Révolution française, c'est un certain nombre de protections à la personne, on ne peut pas m'arrêter dans n'importe quelle condition, les lettres de cachet, enfin que sais-je, c'est la défense de la personne, les droits civils qui étaient protégés, la citoyenneté civile qui était acquise à tous les citoyens. Et donc tous les mouvements contre la Révolution française, contre les Lumières, contre... les droits civils, disait, c'était le premier grand mouvement contre-révolutionnaire dans notre histoire récente. Le deuxième grand mouvement contre-révolutionnaire, c'est celui contre les droits politiques. En gros, les droits politiques, c'est le résultat de réformes importantes, de lutte pour le suffrage universel. Suffrage universel, d'abord plural, et ensuite pour les hommes, et enfin pour les hommes et pour les femmes. Ça a amené un certain nombre d'années, beaucoup de grèves générales pour en arriver là. Et donc le fait que chacun peut voter, chacun a des droits politiques, du fait même de son existence, et pas seulement les riches. On disait avant, seuls les riches doivent avoir des droits politiques parce que ce sont les seuls qui ont quelque chose à défendre, qui ont des intérêts à défendre. Les pauvres n'ont rien à défendre. Donc ils n'ont pas à avoir des droits politiques, c'est pourquoi il fallait avoir le sens, réunir le sens, c'est-à-dire avoir une certaine richesse pour avoir le droit de vote, parce que seuls les riches ont quelque chose à protéger. Les pauvres, nulle plainte du côté du travail, disait-on. Ils n'ont pas de souci à se faire puisqu'ils n'ont pas de propriété et de richesse. Il a fallu longtemps pour qu'on se rende compte que ce n'était pas comme ça que les choses se passaient et qu'au fond, la sécurité sociale... c'est la propriété des pauvres, c'est ce dont ils disposent et qui est leur propriété, c'est la propriété de ceux qui n'ont pas d'autres richesses, et c'est leur richesse majeure. Eh bien, les droits sociaux, c'est ça. Les droits sociaux, c'est le fait d'avoir des droits à partir du travail. Le fait de dire que le fait d'avoir, on a parlé du chômage, d'avoir une allocation de chômage, mais c'est un droit s'il n'y a pas un emploi pour moi. En contrepartie, je dois être disponible sur le marché de l'emploi, mais en contrepartie de cette disponibilité, si je n'ai pas accès à l'emploi, mais j'ai le droit à une indemnité de chômage. Quand je suis vieux, j'ai le droit à une pension. Ce n'est pas la charité, c'est le droit, c'est un salaire continué, j'ai le droit à avoir une pension. Si je suis malade, j'ai le droit à être soigné, ainsi de suite. Donc, c'est en fonction de droits sociaux que nous existons, que nous avons des revenus et que nous avons une vraie existence. Et notre citoyenneté, c'est précisément le mélange des droits civils, des droits politiques et des droits sociaux. Donc, Hirschman disait, première contre-révolution, les droits civils, deuxième contre-révolution, les droits politiques. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la troisième contre-révolution, qui est celle contre les droits sociaux. L'ubérisation de la société, dont j'ai parlé à travers la discussion qu'on a eue juste avant la conférence, c'est contre les droits sociaux. Ce qui se passe en matière de chômage aujourd'hui, c'est contre les droits sociaux. Dire qu'on doit travailler plus longtemps, et donc avoir une pension moindre, parce que c'est cela que ça veut dire aussi, c'est contre les droits sociaux. Et progressivement, c'est de cela qu'il s'agit. Et les résistances qui sont mises en place maintenant, la manière dont on discute les mots du pouvoir, c'est la manière de résister à ces contre-réformes, à ce que Hirschman a appelé cette nouvelle contre-révolution, qui est contre les droits sociaux. Et c'est ça, au fond, l'enjeu des mots du pouvoir aujourd'hui, les mots qui sont avancés, c'est ceux qui, en gros, visent à diminuer, à affaiblir les droits sociaux qui sont la partie aujourd'hui essentielle, je dirais, de notre citoyenneté. Voilà.
À l'issue de son exposé, Matteo Alalouf a aussi pris la peine de répondre aux questions du public. Il a ainsi pu parcourir davantage son dictionnaire du prêt-à-penser, avec des arrêts à la lettre C comme cotisation sociale et à la lettre A comme allocation universelle.
Quand moi j'étais étudiant, et qu'on parlait de la formation des salaires, on parlait de la cotisation sociale. Maintenant, on parle de charge sociale. Le mot du pouvoir, on n'utilise pas le mot cotisation sociale, qui est le bon mot bien sûr, vous avez raison de l'utiliser. Vous n'avez pas dit charge sociale. C'est ceux qui pensent que les cotisations, il faut les diminuer. D'ailleurs, je me demande pourquoi il faut les diminuer. On les a beaucoup diminuées. Si c'est des charges, autant les supprimer. Si c'est des charges qui ne font que peser et qui ne cherchent à rien, je ne vois pas pourquoi on les garde. On n'a qu'à les supprimer. Donc, c'est que ce n'est pas des charges, mais que c'est plutôt du salaire. Et que c'est le financement de la sécurité sociale, effectivement, et que c'est important, les cotisations sociales. Et donc, voilà un mot du pouvoir, c'est charge sociale, au lieu de dire cotisation sociale. C'est un des plus importants, j'ai parlé actif, mais charge sociale, tout le monde utilise ça, hein, partout. Deuxième chose, on porte constamment atteinte à la sécurité sociale, bien que ça résiste drôlement, je veux dire, en Belgique, on résiste plus que dans d'autres pays. Et si toutes les réductions de cotisations sociales s'étaient traduites juste par des réductions de cotisations sociales, on n'aurait plus de sécurité sociale maintenant. Si on l'a, c'est que jusqu'ici, on a toujours fait en sorte que les réductions de cotisations sociales soient compensées par un financement alternatif. C'est-à-dire que chaque fois qu'on supprime des cotisations sociales, les cotisations sociales financent la sécurité sociale, les pensions, l'assurance maladie, etc. Chaque fois que l'on exonère, que l'on supprime, que l'on diminue les cotisations sociales, que leur poids diminue, on met à la place ce que l'on appelle des recettes alternatives. Mais déjà ici, qui paye les cotisations sociales? On dit que c'est des charges sur le travail, c'est pas vrai. Pour le travail, c'est les prestations de sécurité sociale. Nous avons un système par répartition qui fait que les cotisations sociales sont versées à un organisme unique qui s'appelle l'ONSS, l'Office national de sécurité sociale, en ce qui concerne les salariés, qui est redistribué dans les différents régimes et qui devient des prestations sociales, les pensions, l'assurance maladie. Ce n'est pas dans une caisse, il n'y a pas... c'est au moment même, les cotisations deviennent des prestations à travers ce système dit de répartition. Donc ça, c'est le système des cotisations sociales. Ça ne fait pas des fonds de pension, ça ne fait rien de semblable. Ça ne fait pas de la thésaurisation, on ne peut pas dévaliser ça. Il n'y a pas des méchants qui vont venir dévaliser une caisse de sécurité sociale. On peut à la limite maintenant même plus dévaliser des bureaux de poste, mais sûrement pas des caisses de sécurité sociale. Ça se transforme en prestations. Mais donc, on met à la place... Qui les paye? Ben, c'est les patrons. Donc c'est des revenus du capital qui sont transférés au travail. Nous sommes dans une période où les transferts change de plus en plus. Il y a de moins en moins de transferts des revenus du capital vers le travail, précisément par la réduction des cotisations sociales. Ils sont remplacés, je vous ai dit, par des financements alternatifs, soit toutes sortes de taxes, accises, droits de douane, des machins, mais ça, c'est des petites taxes. Donc, on trouve des petites taxes qu'on essaye d'affecter à la sécurité sociale pour compenser, mais ça, c'est pas beaucoup, c'est peu. L'essentiel, c'est la TVA. Donc, on finance la sécurité sociale par la TVA. Les cotisations sociales sont payées par les patrons. La TVA, c'est payé par nous tous. Donc, on a un déplacement de revenus. Mais on a conservé la sécurité sociale, ce que d'autres n'ont pas pu le faire à ce point-là. C'est un compromis dans un rapport de force défavorable, mais qui fait en sorte qu'en Belgique encore, et c'est à cela que l'on en veut aujourd'hui, c'est à ça que le gouvernement actuel veut remettre un coup, c'est qu'on a sauvegardé encore l'essentiel, et c'est ça que l'on ne parvient pas à avaler. Et on en est là aujourd'hui au niveau des débats et tout ça. Et dans la mesure où il y a cela, les gens se disent « ce système ne tient plus, ce système ne marche plus », et d'où l'idée d'essayer de trouver autre chose. Et alors on vient à votre jeune député et à l'allocation universelle, qui ne vient pas que de lui. Cette idée est relativement vieille. Pour l'essentiel, elle date dans sa forme actuelle des années 60, et c'est de Friedman, du premier théoricien du néolibéralisme actuel, de Friedman, qui l'a développé sous forme d'impôt négatif. Pour lui, il y a deux mécanismes qui empêchent la dérégulation, qui empêchent une économie de fonctionner suivant les principes du néolibéralisme. C'est d'une part une banque centrale qui est politique, ça veut dire que la monnaie est organisée par le pouvoir politique, et d'autre part, le système de sécurité sociale où une grande partie du produit national, une très grande partie du produit national, échappe au marché et à la financiarisation. C'est des sommes considérables, je veux dire, toutes les pensions, toute l'assurance maladie, tout ça, c'est tout à fait considérable. Et tout cela échappe au marché. En ce qui concerne la Banque centrale, en Europe, on est là-dedans, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, précisément, est une banque centrale indépendante qui échappe donc au pouvoir politique. Ce n'est plus la Grèce, on a subi les conséquences il y a peu, dans la mesure où elle ne maîtrise plus sa monnaie, elle ne maîtrise plus un certain nombre de choses, donc elle ne peut pas mener une autre politique que les contraintes dans lesquelles elle se trouve prise à un niveau donné. Donc, sur la question de la dépolitisation de la Banque centrale, elle a abouti. Par contre, la sécurité sociale, elle est toujours là. Et c'est là qu'on n'est pas encore parvenu à l'abattre. Et c'est là-dessus que ça joue. L'allocation universelle, ça c'est le bon truc. Si vous donnez effectivement 1 000 euros à tout le monde, vous pourrez le faire, c'est pas un problème. C'est un problème, c'est un peu plus que ce qu'on dépense. Mais enfin, on pourrait se résigner. C'est exactement tout le budget social que nous avons. On supprime la sécurité sociale, vous n'avez plus de pension, vous n'avez rien du tout. Et chacun reçoit 1 000 euros. Mais quand vous devez être opéré, vous allez rigoler avec 1 000 euros. Déjà, pour vivre avec 1 000 euros maintenant, c'est rigolo, si j'ose dire. Mais avec ça, sans autre allocation, ça risque d'être beaucoup plus rigolo qu'on ne le pense. Donc, le problème, et donc c'est à la place de la sécurité sociale, c'est un appauvrissement général de la société, c'est le cas. Je veux dire, ce que propose le député libéral, c'est vraiment, c'est aussi l'idée que ce que vous dites sur les fonctionnaires et tout ça, c'est pas bien que c'est aussi l'idée libérale fondamentalement qui est de dire les gens sont responsables de ce qu'ils font de leur argent. Donc c'est bon que eux décident, je leur donne de l'argent, une somme, 1 000 euros, et c'est eux décident de ce qu'ils vont en faire. Et pas d'autres qui décident à leur place. Puisque maintenant, il y aurait d'autres qui décideraient à leur place, puisqu'il y a une indemnité de chômage si je suis chômeur, il y a ceci si je suis ça, etc. Toutes les choses sont conditionnées. Et donc, pas les services publics, il faut moins de fonctionnaires. Donc la question n'est pas l'école, si je fais des économies, si j'ai de l'argent, parce que si j'ai 1 000 euros, je ne vais pas pouvoir m'en tirer. Donc alors, je vais devoir fonctionner comme Uber, c'est-à-dire tous à temps partiel, tous des petits boulots pour compléter cette allocation. Si je travaille beaucoup en complément qui s'ajoute à cette allocation, ben je pourrais économiser. Si j'économise beaucoup, je pourrais envoyer mes enfants à l'école, mais une école drôlement payante, parce qu'on ne payera plus l'école dans ce système-là. Je pourrais me soigner, mais en payant mes soins de santé. Donc l'idée, c'est, ce n'est pas l'État qui se substitue aux personnes, ce qui est horrible. C'est les individus qui décident de leur avenir, en toute liberté. Sauf qu'on n'est pas libre et qu'on n'est pas égaux. C'est l'idée, la solidarité n'existe plus ici, c'est l'idée fondamentale d'égalité des chances. Si tout le monde a la même chance, la même somme, il y a une égalité des chances, chacun se débrouille. Il y en a qui s'en sortiront bien, effectivement, il y en aura là-dedans beaucoup qui accumuleront beaucoup de richesses, et d'autres qui moisiront avec 1 000 euros par mois et sans soins de santé. Cette idée n'est pas seulement une idée de droite et une idée libérale. C'est une idée de droite et une idée libérale qui est développée par beaucoup. Vous avez parlé de la Finlande. Ce n'est pas encore fait parce qu'ils ne sont pas d'accord entre nous. Mais le gouvernement finlandais est un gouvernement de centre-gauche si on devait le comparer au nôtre. C'est un gouvernement beaucoup plus à droite que celui que nous avons ici. Il est composé de 3 partis. D'un parti dit du centre, qui est en fait un parti libéral, un parti conservateur, qui a quelques objections, et puis le parti des vrais Finlandais, qui est ce qui correspond au Vlaams Belang, pas la NVA. Hein. Donc c'est un gouvernement très à droite, qui veut mettre cela, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, je ne sais pas si ça aura lieu, si ça marchera. Et aussi à titre expérimental, pas partout, hein, pas d'une manière générale, mais à titre expérimental, dans une région, disent-ils, où il y aurait un taux de chômage élevé. Donc, encore une fois, ceux qui parlent de ça, c'est un gouvernement très, très à droite, plus à droite que celui que nous avons ici en Belgique, s'agissant de la Finlande. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens de gauche qui sont pour cela. Beaucoup de gens de gauche sont aussi pour cela, en partant de l'idée que la sécurité sociale s'affaiblit, ça va de plus en plus mal, regardez la situation des chômeurs, on est fliqués partout, donc tout ça. Et donc l'idée d'un revenu inconditionnel, d'un revenu de base, qui serait une bonne chose. Cela déjà, ils proposent des petits revenus, parce qu'ils se rendent compte que dès qu'ils proposent un peu plus, il n'y a plus de sécurité sociale, c'est fichu. Donc cela, ils proposent déjà beaucoup moins. Ainsi, Philippe Van Parijs, par exemple, en Belgique, qui est le pape de l'allocation universelle, lui, il propose 500 euros. Avec 500 euros, si on prend toutes nos minima sociaux, les allocations minimales, en Belgique, c'est en gros entre 500 et 1 500 euros. Et 500, c'est déjà très, très peu. Enfin, on a une grappa, donc c'est déjà 900, près de 1 000 euros, je pense, hein, 900 et quelques euros, une grappa, donc on est toujours au-dessus déjà des 500 euros. Donc voilà, ça c'est le type de discussion. Il y a des gens de gauche qui sont pour, qui défendent cette idée, des gens qui sont ni de Philippe Van Parijs, ni de gauche, ni de droite, disons, mais il y a aussi des gens de gauche, en général des gauchistes, des gens dans des cercles gauchistes qui défendent cette idée, qui voient là une idée de liberté, etc. Ou bien, à droite, elle est fortement défendue. Vous avez cité l'exemple de la Finlande, il y en a d'autres, du député libéral de Mons, c'en est un autre. Donc à droite, elle est aussi défendue. C'est une idée qui fait partie du libéralisme à l'état pur, je dirais, qui est de dire, on supprime l'État, on supprime tout. Chacun a quelque chose, et puis chacun est responsable, il tire son plan.
Vous venez d'écouter la conférence « Contre la pensée molle, dictionnaire du prêt-à-penser » de Matteo Alalouf, qui s'est tenue le 17 novembre à l'Institut des arts et métiers de la Louvière.